Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Marie.
Je suis content de t'accueillir dans ce petit podcast qui est proposé sur Radio Campus et puis sur Le Cri de la Girafe. Et aujourd'hui, on parle un petit peu, dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale, de tes pratiques. Et peut-être tu peux commencer par te présenter.
Ben voilà, donc je m'appelle Julien Dayer, je suis auteur, comédien et metteur en scène. Et je suis aussi co-commissaire artistique d'un centre d'art en EHPAD. Et voilà, on est à la cour des Trois Coquins et je suis en répétition pour le spectacle Voyage en terre de vieillesse.
Quand on a commencé à préparer cet entretien, tu m'as parlé d'un ouvrage collectif auquel tu as participé récemment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Ça s'appelle Un art de la réparation, réparé par les arts vivants, le par est entre parenthèses, et qui a été dirigé par Giuseppe Bourriguel et Sunga Kim. Et ça sort justement en octobre dans la collection Artec des Presses du Réel. Et donc, dans cet ouvrage, en fait, il y a la volonté de rassembler des témoignages d'artistes et des contributions plus scientifiques autour de ce thème de la réparation et assez tourné vers tout ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire Covid. Et donc, à l'intérieur de cet ouvrage, j'évoque ce que j'ai mis en place au moment des confinements, qui était une conférence téléphonique hebdomadaire sur laquelle se retrouvaient des personnes qui écrivaient des textes ou qui avaient écrit des textes pour les partager ensemble. Et c'était une forme finalement de soutien, de socialisation, d'échange avec nos pairs au moment où on n'était plus capable d'aller dans des salles, de lire nos textes, voilà, et puis d'avoir des échanges humains en fait, finalement.
Est-ce que c'est un moment que tu identifies dans ta trajectoire artistique comme la confrontation à la santé mentale, précisément ?
Alors, moi, je l'identifie à une espèce de surgissement de plein de tentatives de pratiques autres que ma pratique artistique habituelle, parce qu'en fait, j'ai été pris d'un désir urgent de voir comment j'allais pouvoir faire dans le sens continuer ma pratique artistique spectacle vivant depuis chez moi en étant confiné. Et en fait, ça a lancé plein de pistes, notamment tout le travail sur l'audio du téléphone, créer de l'interaction par l'audio du téléphone avec des personnes qui ne sont pas là, que j'ai poursuivi après la crise sanitaire et qui font maintenant partie de mes spectacles, puisque j'utilise ces dispositifs que j'ai commencé à travailler à distance avec le public qui est présent lors des représentations. Ces conférences téléphoniques qui s'appelaient les jeudis ouverts, puisqu'on se retrouvait tous les jeudis soirs, clairement il y avait un temps de socialisation avant d'arriver aux lectures et on sentait bien qu'il y avait une joie aux personnes d'interagir et de trouver par ce biais-là un lien social. Et il y a des personnes qui, de temps en temps, se connectaient parce que c'était libre. Toute personne qui avait le numéro pouvait nous rejoindre sur la conférence téléphonique. Et il y avait parfois des personnes qui nous retrouvaient et qui avaient un comportement, des interactions qui ne rentraient pas complètement dans les usages habituels et qui, à un moment, de la part de certaines personnes habituées, a pu créer un petit malaise avec cette idée de mais est-ce que à un moment il faudrait pas qu'on repose bien les règles ou alors que comment est-ce qu'on peut faire pour il y a pointé à un moment cette idée de mais peut-être que sans les personnes qui viennent et qui disent des propos qui sont un petit peu parfois qui nous même si c'était jamais voilà très gênant et donc moi je leur avais dit ça doit rester ouvert et puis de toute façon voilà ça crée pas de grandes perturbations et même c'est intéressant on tisse avec donc oui je m'étais rendu compte en fait du lien. Je m'étais rendu compte en fait de l'utilité sociale entre guillemets de cette conférence téléphonique ouverte à partir du moment où sont arrivées des personnes qui étaient des personnes qui peut-être rentraient pas trop dans le cadre des événements qu'on peut organiser habituellement et qui se retrouvaient là parce que c'était ouvert, parce que on communiquait dessus d'une manière assez simple et conviviale et je trouvais ça plus chouette qu'autre chose.
C'est vrai que souvent, il y a une attente de comportement à la norme quand on assiste à une performance, quand on vient, par exemple, dans un théâtre, il y a un système de code établi qu'on apprend quand on est enfant et qu'on a la chance de pouvoir accéder à ces propositions. Et puis, quand on revient plus tard dans notre vie, on peut les repratiquer. Et on peut penser, effectivement, qu'il y a une exigence de neuronormativité dans ces moments-là. Et est-ce que tu penses que de pratiquer des propositions, enfin de proposer des dispositifs qui soient plus perméables entre les personnes qui sont présentes, ça facilite les échanges et peut-être ça permet d'ouvrir, de pas imposer ce cadre rigide à des personnes qui se sentiraient pas à l'aise dedans.
Je pense qu'en fait, ça crée une confrontation au sein du public et que ça, il faut le savoir et qu'il faut trouver une manière de le gérer. Mais je dirais que c'est un petit peu l'expérience des artistes qui vont jouer, par exemple, à Aurillac, en théâtre de rue. Puis le théâtre de rue, en général, les portes, elles sont ouvertes. Il n'y a pas que les personnes qui ont prévu de venir qui arrivent là. Il n'y a pas que les personnes qui, entre guillemets, ont les codes, qui s'autorisent à interagir avec les artistes. Et c'est en cela que c'est passionnant et que c'est vraiment un espace public. Et que c'est un espace où il se passe plein de choses et où on va rejouer finalement les enjeux de faire société ensemble. C'est pour ça que les arts de la rue, c'est quelque chose qui est absolument passionnant et que, par exemple, dans ces conférences téléphoniques, j'avais l'impression que c'était un peu de l'espace public, justement parce qu'il n'y avait pas tout un filtrage. Il suffisait d'avoir l'information et le numéro. Alors déjà, ça fait un premier filtrage, mais il n'y avait pas besoin de réserver, il n'y avait pas besoin de payer, il n'y avait pas besoin de s'habiller d'une manière qu'on suppose être la bonne manière de s'habiller. Enfin, il n'y avait pas tout ça, quoi. Et je pense que ça fait partie aussi du rôle des artistes qui veulent aller dans ces espaces, d'avoir à gérer cette confrontation à l'intérieur du public. Et la première des choses, c'est de rassurer le public sur le fait que c'est OK pour les artistes. Parce qu'en fait, parfois, il y a des gens qui se surangoissent en se disant « Ah là là, mais c'est en train de perturber les artistes » et qui soit se surangoissent, soit s'autorisent à interagir directement avec les personnes en pensant être la bonne personne qui a compris, qui sait ce qui est bien pour les artistes et qui va les défendre. Donc ça, c'est soit les artistes, dans le cadre, dramaturgiquement, ça a été prévu qu'il puisse y avoir un type d'interaction, soit c'est les organisateurs et les organisatrices qui doivent, à un moment, rassurer le public sur le fait que ce qui se passe, c'est OK.
Alors, on peut penser que quand on quitte les infrastructures prévues pour l'expression artistique, quand on quitte le théâtre institutionnel, les murs du bâtiment, et qu'on va explorer d'autres espaces d'expression, on peut s'affranchir plus facilement de ces contraintes un peu rigides. Toi, c'est ce qui t'intéresse, d'explorer d'autres manières, d'autres territoires d'expression. Et donc, depuis quelques temps maintenant, tu es en résidence dans les EHPAD avec cette idée de ramener vers l'espace dans la cité ce qui s'y passe, mais aussi de créer une perméabilité entre les deux, si j'ai bien compris.
Oui, c'est vraiment une perméabilité, c'est-à-dire il y a ces lieux qui sont des EHPAD, qui sont vus avec une certaine anxiété de l'extérieur, qui sont visités de manière très furtive par des personnes qui vont voir leurs proches, je parle de manière générale, qui vont voir leurs proches, qui veulent pas rester trop longtemps dans les couloirs, dans les espaces communs, qui peuvent s'angoisser de bruit, de sons entendus, de cris parfois. Et donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut investir ces lieux d'une manière qui les rende pour eux sans que ce soit anxiogène pour les personnes. Et d'accompagner les personnes à découvrir que ces lieux sont avant tout des lieux de vie. Et que donc, si c'est un lieu de vie, ça peut être un lieu de pratique artistique et de partage culturel.
Donc là, tu as ces résidences où tu construis des choses avec les résidents, où toi-même, tu construis aussi ce qui va devenir le spectacle que tu présenteras bientôt. Est-ce que tu t'imagines présenter ça uniquement hors des EHPAD pour raconter les EHPAD ou dans les EHPAD pour inviter les gens à venir ou encore d'autres formes? Est-ce que tu t'imagines une variété de dispositifs?
Alors en fait, oui, il y a une variété de dispositifs dans le sens où depuis début 2023, je passe beaucoup de temps en EHPAD parce que j'ai d'abord été accueilli comme artiste en résidence à l'EHPAD Les Blés d'Or de Saint-Baldoff en lien avec la scène nationale de Chambéry pour le centre d'art LBO qui a été créé par Mohamed El Khatib et Valérie Mregen avec la direction de l'EHPAD et la scène nationale. Voilà. Et à la suite de ça, on m'a transmis le commissariat artistique que j'ai assuré seul pendant un an. Et puis après, j'ai invité l'artiste Maria Landgraf à me retrouver pour sélectionner, accueillir, accompagner des artistes en lien avec Julie Dunn, l'animatrice de l'EHPAD. Et donc, ça représente beaucoup de temps passé dans l'EHPAD que j'ai voulu passer, pas simplement en allant et venant rapidement, mais en dormant sur place. Donc il y a une chambre qui est une chambre qui n'a pas de douche, pas de toilette. Donc lors de la rénovation, elle était trop petite pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donc elle est restée inusitée et moi je peux y aller puisqu'elle est donc toujours libre. Et en passant jour et nuit du temps dans l'EHPAD, ça permet d'avoir un lien avec le personnel, les résidents, les résidentes et aussi les familles qui est beaucoup plus intime. Et qui permet d'avoir accès à une réalité des coulisses de ce qui se passe dans ces lieux, qui m'a permis, moi, d'une part, de réaliser qu'il y avait concrètement, qu'il y avait énormément de joie, d'humour et de complicité dans cet endroit-là, et aussi de pouvoir me désangoisser parfois par rapport à des signaux que à l'extérieur, on pourrait identifier comme très inquiétant, alors qu'en fait, pas complètement. Je vous donne un exemple. Il y a un établissement, un EHPAD, où j'entendais un monsieur crier « Au secours ! Au secours ! Au secours !» Quand on passe rapidement, c'est très angoissant de se dire « Mais où est-ce que j'ai placé mon père, ma mère ?» Il y a quelqu'un qui crie au secours, je repasse, il crie au secours. Bon, en fait, moi, quand je suis artiste en résidence, invité dans un établissement, j'y passe tellement de temps jour et nuit que, au bout d'un moment, je me permets de toquer à la porte et de dire qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a ce monsieur qui dit « J'ai fait tomber mon mouchoir !» Et en fait, tout le monde le sait. Et moi, au bout d'un moment, je le sais aussi. Ça ne veut pas dire que cette demande, il ne faut pas y répondre, mais ça veut dire qu'à un moment, quand des membres du personnel sont venus ramasser le mouchoir 30 fois, peut-être qu'on ne va pas le ramasser tout de suite la fois d'après. Et je ne dis pas que c'est idéal, mais ce n'est pas aussi anxiogène et angoissant qu'on pourrait le croire quand on ne fait que passer pour aller visiter des proches. Donc, en fait, c'est cette immersion dans les EHPAD qui m'a permis d'entendre le fait que c'est beaucoup plus complexe et qu'il y a plein de signaux a priori qu'on interprète d'une manière qui n'est pas forcément conforme à la réalité de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire du tout que l'EHPAD est la solution idéale dans une société pour accompagner des personnes dites dépendantes. Et qui, clairement, à un moment, ne peuvent plus rester vives chez elles dans le cadre que propose la société aujourd'hui, c'est-à-dire avec une famille qui vit à distance et des aides à domicile qui viennent ponctuellement par rapport aux nuits, par rapport aux coûts que ça représente, etc., pour les familles. Voilà. Je ne dis pas que l'EHPAD, c'est la solution idéale. Je dis juste que ce n'est pas en s'angoissant sur l'EHPAD qu'on va améliorer le sort des personnes qui vivent en EHPAD, qui y travaillent, qui viennent visiter leurs proches, etc.
On imagine qu'il y a une grande diversité de besoins parmi les personnes qui sont présentes. Évidemment, dans le cadre des semaines qui nous intéressent, il y a toute la question des troubles neuroévolutifs qui sont centraux finalement pour dans nos préoccupations de l'âge qui avance. Il y a aussi d'autres préoccupations sur la dimension physique ou sur la dimension des sens. Typiquement, la DMLA, comme on évoquait tout à l'heure hors micro, c'est une des dimensions qui peut préoccuper les personnes qui approchent du moment de la fin de la vie avec toutes ces dimensions-là. Toi, tu as observé cette diversité avec quel regard ?
Alors, quand j'ai commencé à passer beaucoup de temps en EHPAD, il y a une première chose qui m'a un peu surpris, même si je ne l'avais pas forcément marqué comme réflexion, etc., c'est de réaliser que ce qui fait le plus peur aux personnes qui vivent dans les EHPAD, ce n'est pas la peur de la mort, c'est la peur de perdre sa tête. C'est vraiment dans les retours que j'ai pu avoir ce qui les effraie le plus. Et c'est de finalement se retrouver dans un espace collectif où il y a une très grande proximité avec des personnes qu'au quotidien, dans la société, on ne fréquente pas si souvent. Et donc, des personnes qui rentrent dans un EHPAD sans avoir de troubles neuroévolutifs se retrouvent à partager leur quotidien avec des personnes qui peuvent avoir ces troubles et qui ne sont pas toujours dans les unités de vie protégées ou unités fermées, qui sont des espaces où les personnes sont finalement dans des espaces fermés avec des digicodes, parce que ces personnes-là, si elles en sortent, elles peuvent se mettre en danger, sortir de l'EHPAD, déambuler, se faire renverser sur la route, se perdre, etc. Il y a des personnes qui peuvent avoir des débuts de troubles neuroévolutifs et qui sont dans les espaces ouverts parce qu'on a constaté que ça ne les mettait pas en danger, qu'elles n'allaient pas chercher à sortir et que donc il n'y a pas d'injonction à les mettre dans des unités fermées. Ce qui est toujours quand même, et pour la famille et pour les personnes, une étape dans un chemin de vie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une proximité avec les personnes qui ont des troubles quand on n'en a pas, et que ça, c'est quelque chose d'angoissant. Pas pour toutes les personnes, mais ça revient quand même régulièrement. C'est là, j'ai pas envie de finir comme ça, ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que les activités, la pratique artistique, elle peut permettre parfois de gommer un petit peu les différences, d'effacer un petit peu certains a priori et de voir qu'on est capable de partager une activité commune. Et en même temps, de voir que des personnes qu'on a catégorisées comme « Ah là là, bah là c'est fini, moi si j'arrive à ça, je ne veux pas continuer de vivre, etc. » Bon, eh bien, que ces personnes, face à un geste qui peut être artistique, mais qui peut faire le lien avec un geste de leur quotidien d'avant, un geste artistique que ces personnes ont pu porter aussi, parce qu'elles avaient une pratique artistique professionnelle ou amateur, tout ça, en fait, ça recrée du lien et une sorte de vivre ensemble non anxiogène. Donc là-dessus, je pense que ça peut avoir en effet un effet positif.
De ce que tu décris, on a l'impression que c'est un espace qui offre une ouverture pour l'échange entre des publics qui sont différents, parce que les personnes concernées, elles ont toutes une trajectoire et un moment dans cette évolution qui va être variée. Et puis tu les décrivais la présence plus ou moins restreinte des personnes qui auraient des besoins plus importants. Toi, tu viens d'autre part, t'apportes encore autre chose. Est-ce que tu as l'impression d'arriver dans un espace clos où il y a beaucoup de choses qui se jouent et que toi, tu ne maîtrises pas forcément? Ou est-ce que c'est aussi un espace où tu n'es pas le seul à passer, quoi?
Oui, déjà, je ne suis pas le seul à passer. C'est-à-dire, quand on passe toute une journée dans un EHPAD, on voit passer le personnel soignant, mais aussi tout le personnel qui s'occupe du ménage, des gens de l'extérieur qui viennent pour des séances de kiné, pour la coiffure. Il y a des bénévoles. Il y a des animations, il y a des personnes qui viennent, et puis il y a bien sûr les familles, etc. Donc il y a quand même ce passage, il y a une vie un peu autonome. L'idée, c'est de voir comment la pratique artistique, elle peut aussi faire venir des personnes qui ne viennent pas avec un objectif de soin à la personne ou de prise en charge de la personne. L'activité artistique, quand elle permet d'ouvrir le lieu, c'est-à-dire qu'il y a un public qui va venir pour une exposition au Centre d'art LBO ou des représentations, comme j'ai pu en donner avec la participation des résidents et des résidentes dans deux EHPAD à Pont-du-Château, à ce moment-là, il y a des personnes qui viennent juste pour la pratique artistique, pour qu'ils viennent là comme on vient dans un musée, dans un théâtre. Donc la rencontre avec les résidents et les résidentes de l'EHPAD, elle se fait de manière complètement différente. Parce que la personne ne se sent pas l'objet d'un soin, se sent pas la cause d'une visite, ou entre guillemets, bah tiens, les gens viennent faire une BA, ou voilà, ça désamorce complètement ça. Et l'idée, c'est à chaque fois de me dire comment est-ce que je peux amener les personnes, les résidents et les résidentes, les membres du personnel, à être dans l'hospitalité des personnes extérieures qui arrivent. Et alors, rendre ce pouvoir-là. Donc, par exemple, les représentations qu'on avait organisées avec le Caméléon et les EHPAD des Rivedaliers et du Cèdre, l'idée, c'était qu'il puisse y avoir des billets imprimés, que les personnes puissent participer à l'accueil des gens qui viendraient voir leur représentation, etc. Finalement, de leur redonner du pouvoir d'hospitalité. Et c'est pour ça aussi que dans certains EHPAD, j'y vais avec une tente, parce qu'il y a le moment où on monte la tente, et où donc j'ai effectivement besoin de personnes pour m'aider à monter la tente. Et donc, que ça soit en unité protégée ou dans la structure EHPAD, je vais solliciter l'aide de personnes qui, je sens qu'elles sont contentes de voir qu'elles vont m'aider. Elles vont m'aider à monter la tente, elles vont m'aider à me souvenir de l'heure du dîner, de l'heure du petit déjeuner, à m'orienter dans leur espace. Et ça crée un vrai lien. Parce que finalement, je leur propose une autre forme de relationnel. Et puis parce que ça renoue à travers l'hospitalité à la valeur d'utilité. Alors, je ne dis pas que la valeur d'utilité, c'est génial et que c'est là-dessus qu'on doit repenser tous nos rapports, etc. Mais être utile, c'est quelque chose que j'entends comme important pour les personnes âgées qui sont en EHPAD, parce qu'elles le disent dans le sens « je ne suis plus utile, je ne sers plus à rien », etc. Et donc, tout ce qui peut à un moment les solliciter à cette place d'utilité, ça a quelque chose qui leur fait du bien, tout simplement. C'est pour ça qu'au Centre d'art LBO, les artistes qu'on accueille avec Maria Landgraf, l'idée, elle est toujours de leur dire comment est-ce que vous allez pouvoir amener une pratique artistique qui va solliciter à un moment la participation des résidents et des résidentes, des membres du personnel ou des familles. Et moi, c'est toujours ce que j'essaye de mettre en place quand je suis accueilli en résidence, soit pour que mon temps de présence dans l'établissement aboutissent à une restitution artistique, une forme de spectacle court qui est prévu et qui est conçu directement pour cet établissement à la fin de ce temps-là, ou alors que ce soit une résidence en lien avec un spectacle sur lequel, par ailleurs, je travaille.
Ça fait maintenant donc quelques années que c'est devenu ton terrain d'expérimentation et d'exploration quotidienne. Avant, tu avais eu d'autres espaces, d'autres pratiques. J'imagine que toi, en plus d'apporter des choses comme tu nous le décris là aux personnes qui sont sur place, tu aussi, au-delà de collecter de la matière de ton prochain spectacle, j'imagine que tu apprends des choses. Et toi, en tant qu'humain, tu dois découvrir des choses. Qu'est-ce que tu as appris en étant dans ces espaces-là?
J'ai beaucoup appris en passant du temps dans les unités protégées. J'ai appris à la fois par la méthode du essai-erreur, en voyant comment est-ce que je peux communiquer avec des personnes qui ont des troubles neuroévolutifs, sachant que tous ces troubles sont à chaque fois différents. C'est-à-dire qu'il faut repenser sa manière de communiquer avec chaque personne, même s'il y a des choses qui reviennent et qu'on peut, au bout d'un moment, charger sa besace de petits trucs et astuces ou de choses qu'on va tenter et on va voir un petit peu. Voilà. Il y a tous les échanges avec les équipes aussi, parce que c'est des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi et avec lesquelles j'aime partager au sujet des différentes personnes qui sont présentes dans l'unité protégée, de ce que j'essaye de faire, de leur retour là-dessus. Et petit à petit, moi, la manière de comment je peux communiquer avec une personne avec laquelle c'est un peu difficile de communiquer, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Donc, j'adore essayer de partir en enquête et de me dire, comment est-ce qu'on va pouvoir, que ça soit l'apprentissage des langues étrangères, que ça soit communiquer avec des très jeunes enfants ou des personnes qui peuvent être débordées par des émotions ou ou même la communication avec les animaux. À chaque fois, quand je me dis il y a un enjeu de communication, ça m'intéresse énormément. Et donc, voilà, c'était un champ sur lequel j'avais pas beaucoup travaillé avant 2023. Mais à force d'y passer du temps, et puis aussi avec le gros avantage, c'est que moi, toute la communication que je vais pouvoir avoir, c'est du bonus. C'est-à-dire, je n'ai pas un enjeu affectif de me dire je suis en train d'essayer de trouver une manière de communiquer avec mon père ou ma mère avec lequel c'est plus possible, ou mon époux, mon épouse, voilà. Je n'ai pas cet enjeu-là. Donc, je suis beaucoup plus libre pour explorer de nouvelles formes de communication parce que je n'ai pas ce qu'on appelle le deuil blanc. Je n'ai pas à faire le deuil d'un mode de communication qui marchait très bien avant. Donc c'est pour ça que finalement je suis, c'est beaucoup plus facile pour moi en fait d'essayer des choses, d'imaginer, etc. Et ce qui m'a touché en fait, c'est quand plusieurs fois je suis en discussion avec une personne dans l'unité protégée et c'est arrivé par exemple, je me souviens d'un monsieur qui arrivait vers moi, j'étais en train d'échanger verbalement avec son épouse, ce qui n'était pas forcément très évident au départ. Et il est surpris, il me voit, il s'avance, il dit « mais elle vous parle ». Et je me suis dit qu'à ce moment-là, bah, je pouvais peut-être toutes ces petites techniques que j'essayais de développer, et puis je pense ce rapport un peu plus ludique à comment trouver une forme de communication avec la personne qui est en face de moi, qu'il y avait peut-être la possibilité de le partager. Et c'est comme ça qu'est née cette idée d'un... ce qu'on appelle un peu un cycle, mais en fait avec la comédienne et metteuse en scène Florence Bernard, qui elle a beaucoup travaillé en unité protégée avec des personnes ayant des troubles neuroévolutifs par le mouvement, même si ça conduisait après à des ateliers de parole et d'écriture. Elle passait d'abord par le mouvement et par la méthode Feldenkrais à laquelle elle s'est formée. Et donc je lui ai demandé si on pouvait ensemble construire finalement des séances d'exploration de la communication avec des personnes ayant des troubles neuroévolutifs, elles par le mouvement et moi par le dialogue verbal. Et on a été accueillis pour ça au lieu-dit à Clermont-Ferrand avec un soutien financier de la ville de Clermont-Ferrand. Et on a commencé donc en février 2025 à proposer des séances ouverte à la fois à des proches aidants et aidantes, à la fois des professionnels de santé et des artistes qui veulent travailler en unité protégée.
Et donc dans ces moments-là, qu'est-ce que vous proposez et combien la question de la santé mentale, elle prend sa place dans la question de la communication ?
Elle prend sa place dans le travail que fait Florence. C'est beaucoup à travers la méthode Feldenkrais, cette idée d'identifier les tensions qu'on peut avoir dans le corps et comment, par ce qui s'appelle en méthode Feldenkrais des leçons, des exercices, comment est-ce qu'on peut essayer de décoincer des choses ou en tout cas de signaler au cerveau que là, il y a une tension, il faut y aller, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est très positif à la fois et peut-être en premier lieu ce dont on s'est rendu compte pour les aidants et les aidantes qui sont souvent surmenés par ce rôle d'aidance et qui à un moment oublient de se poser et de prendre du temps pour elles-mêmes et d'autant plus que toutes ces tensions qu'on peut avoir dans le corps quand on arrive, si je prends l'exemple de l'EHPAD, quand on toque à la porte et qu'on ouvre et qu'on se présente à cette personne qu'on aime, mais qui nous angoisse un petit peu parce qu'on sent qu'on est en train de la perdre petit à petit, alors que son corps est toujours là. Enfin, il y a quand même une sorte de violence dans cette interaction, enfin, de ce qui est vécu. Quand on y arrive avec une tension, une personne qui est en train de passer à un mode de communication autre, pour qui le verbal est très fatigant par les efforts cognitifs que ça représente, etc., développe une très grande sensibilité à tout ce qui est de l'ordre émotionnel, posture du corps, tension, etc. Et que donc, c'est très important de voir comment est-ce qu'on peut arriver avec un corps détendu, en étant émotionnellement le plus possible détendu aussi, ouvert aux belles choses qui peuvent se passer, etc. Quand je dis ça, c'est pas pour charger et dire vous devez encore en plus penser à ça, à ça, à ça. Je dis juste qu'en fait, ça, c'est toujours mieux si ça se passe comme ça et que le travail de Florence, il aide à ça. En même temps que dans son travail, c'est vrai qu'on visite la manière dont on touche l'autre et que cette manière de toucher l'autre, elle a un impact sur l'autre. Et que ce travail qu'elle mène, il est passionnant pour ça. Et les personnes qui ont participé étaient très enthousiastes autour de ça. Et moi, de mon côté, donc, l'idée, c'est de travailler sur le dialogue verbal. Et donc, j'ai conçu à peu près une douzaine de cartes à contraintes qui permettent, par binôme, de simuler chez l'une des deux personnes des troubles neuroévolutifs. Par exemple, je donne juste un exemple de duo de cartes, puisque je rassemble peut-être une dizaine de personnes et on fait 5 binômes. Et pendant 2 minutes, les personnes ont pour indication d'avoir un dialogue en respectant les contraintes qui sont sur les deux cartes. Il y a une personne qui va avoir comme contrainte demander à la personne face à vous de vous raconter un de ses meilleurs souvenirs de vacances. Et l'autre personne va avoir l'indication ne prononcez pas un seul mot sans avoir au préalable, compter le nombre de lettres qu'il compose. Donc là, directement, la personne qui a cette carte, elle va se retrouver à expérimenter ce que c'est que d'avoir un effort cognitif beaucoup plus important à faire pour s'exprimer avec des mots. Elle va voir le regard de la personne face à elle se poser un peu incrédule en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle va peut-être constater que très vite, elle va chercher des manières de raccourcir ses propos, qu'elle va espérer qu'on lui pose des questions où il faut répondre par oui ou par non, ou des choses comme ça. Parce qu'elle va chercher à minimiser le plus possible son effort cognitif. Ou, je donne un deuxième exemple, il y avait une carte à la place de celle-ci, c'était « ne dites rien avant que la personne face à vous vous ait laissé 7 secondes de silence ». Et donc, ça dure 2 minutes. Et après, ce qui est intéressant, c'est les débriefs, justement. C'est quand on s'arrête, et les différents binômes, on pose les cartes, et on se dit « qu'est-ce qui s'est passé ?» Avant de connaître les contraintes, on se dit « qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il y a une personne à ce moment-là qui dit « je ne sais pas, je n'ai pas compris, j'ai essayé pendant 2 minutes, là, j'ai essayé de discuter avec cette personne, elle n'a pas répondu. » Et donc, on lui a fait prendre conscience qu'elle n'avait à aucun moment laissé 7 secondes de silence. Et c'est ça qui est important, c'est ces moments de débrief où on échange entre nous et on peut à un moment dire « oui, laisser 7 secondes de silence, ça peut être important pour que la personne elle puisse déjà processer, entre guillemets, entendre ce qu'on lui a dit, penser à ce qu'elle va répondre et pouvoir le faire. » Et moi, à ce moment-là, c'est des petites choses que je peux partager sur la manière dont je procède dans les unités protégées. Et je dis par exemple, regardez la pupille de la personne. Vous allez voir que la pupille, elle tremble un petit peu. C'est que la personne, elle est là, mais juste elle a besoin de temps. Parce que ce qui est très angoissant, c'est quand on n'a pas de réponse. C'est-à-dire, en fait, on peut avoir l'impression de se faire ghoster en direct. C'est-à-dire, on parle et la personne, elle n'est pas là. Et ça peut être très anxiogène pour la personne en face. Et donc, moi, j'essaie de donner comme ça des petits trucs pour essayer de casser l'angoisse de cette interaction qui ne se passe pas comme on a l'habitude qu'elle se passe avec d'autres personnes. Et puis aussi pour amener un côté ludique. C'est-à-dire que quand on a fait plusieurs cartes à contraintes, au bout d'un moment, les personnes elles se disent « qu'est-ce qu'il y a sur la carte à contraintes de la personne en face de moi ?» Et l'idée, c'est de se dire « peut-être que cette personne, quand elle va repartir et qu'elle va retourner voir son père, sa mère, un ami, qu'elle va retrouver ce côté un petit peu exploratoire en retissant avec les échanges qu'elle aura eus avec toutes les personnes présentes, puisque les débriefs ils sont collectifs, et qu'elle va pouvoir, à travers le collectif, ne plus se sentir aussi seule face à la personne et donc s'autoriser à faire des choses qui semblent un petit peu bêtes, un petit peu étranges, un petit peu pas comme on aurait dû faire, ou des choses comme ça. Voilà. Et que donc, je me dis que cette action, elle fait partie du collectif avec toutes les associations qui existent et les entraides aussi dans la père aidance, etc. Mais ça participe de ce collectif qui est indispensable pour les personnes qui se retrouvent à assumer le rôle d'aidant ou d'aidant.
Tu disais que le cycle, il a commencé au début 2025. Il y a eu déjà plusieurs dates. Il y en a encore à venir. Est-ce que si on n'est jamais venu aux précédentes, on peut tout de même découvrir un peu ce que tu proposes? Et justement, est-ce qu'il y a une continuité dans les personnes qui assistent?
Alors, il peut y avoir une continuité. Il y en a notamment pour les séances sur le mouvement avec Florence Bernard, parce que les leçons, les exercices sont différents à chaque fois. Moi, c'est vrai qu'avec ces cartes à contraintes, si on revient, on va retomber sur les mêmes cartes et ça, c'est pas la même. Donc, moi, je me propose pas dans l'idée de suivre différentes séances. Il y a les prochaines qui sont organisées. Il y a le samedi 8 novembre. Au lieu dit à Clermont-Ferrand, l'après-midi, c'est complet, mais on a une liste d'attente parce que régulièrement, en fait, pour ces séances, on a des personnes qui vont annuler à la dernière minute parce que quand on est aidant ou aidante, on fait face à ça aussi, au fait qu'on crée un agenda et puis il y a toujours de l'imprévu. Et il y a le mercredi 26 novembre aussi pour des séances sur le mouvement et on va remettre une ou deux séances sur le dialogue verbal, etc. Et ça, toutes les infos, elles sont sur le site de la Traversaine dans le calendrier.
Qu'est-ce que c'est la Traversaine?
La Traversaine, au départ, c'est une compagnie de spectacle vivant, mais c'est vrai que de plus en plus, ça devient un prétexte à créer des actions qui sont en lien avec les thématiques des spectacles, avec des enjeux de société. Et là, de plus en plus, on est en train d'ouvrir à ce que des personnes qui ne sont pas forcément des personnes du spectacle vivant viennent et pour nourrir les différentes actions qu'on va mener, pour être bénévole à des moments sur des événements, sur l'accueil de spectacles, etc. Parce que, en fait, comme tu l'as dit à un moment, je m'intéresse à créer des spectacles qui vont à la fois dans des lieux dits lieux dédiés, des spectacles qui ont l'habitude d'accueillir du spectacle vivant, mais j'aime bien aussi aller dans des lieux alternatifs ou ce qu'on appelle des lieux non dédiés. Et pour ça, parfois, il y a besoin de plus de renfort et que si la compagnie peut venir avec des personnes qui nous accompagnent sur ces événements, c'est toujours bien aussi. Et puis, c'est l'occasion de créer du collectif, d'être ensemble. C'est une dimension qui est peut-être plus festive et moins cérémonielle ou institutionnelle. C'est quelque chose qui me tient très à cœur d'ouvrir cette traversaine. Dans l'idée de la traversaine, il y avait l'idée de traverser à travers la Seine. Et c'est maintenant que c'est en train de... Après, ça a été créé en 2006. Et c'est en train maintenant d'éclore cette idée. Donc, je suis très content pour ça.
Si nos auditeurs ont envie de rejoindre la traversaine ou de découvrir un petit peu les choses, est-ce qu'il y a un moment, un espace, un lieu, un temps où on peut rencontrer le collectif déjà existant?
Il suffit de nous contacter et on organise régulièrement des temps où on se rassemble les personnes qui sont déjà dans ce noyau dur de soutien de la compagnie. Et régulièrement, on organise des apéros discussions et les personnes sont les bienvenues pour nous retrouver. Ah oui, et puis s'il y a des personnes qui veulent nous rencontrer, il y a la pré-première du spectacle Voyage en terre de vieillesse qui sera à la salle du Moulin de l'Étang à Billon. C'est le vendredi 7 novembre à 19h et c'est en entrée libre, sans réservation. Donc c'est le moment idéal, on va essayer de créer un petit temps juste avant pour accueillir des gens qui justement voudraient se renseigner sur l'association.
Merci beaucoup Julien.
Merci Jean-Marie.